l'écoute d'RFI, il est 8h30 à Niamey et à Abuja.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublange à la une. Deux sommets pour un symbole en Afrique de l'Ouest.
Symbole de la rupture entre les juntes sahéliennes et la CDAO. L'organisation sous-régionale se réunit jusqu'à dimanche à Abuja quand les putschistes maliens, burkinabés, nigériens sont attendus aujourd'hui et demain à Niamey. L'inquiétude dans ce journal de Reporters sans frontières pour trois journalistes burkinabés qui n'ont pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bientôt, une déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko au Sénégal. En tout cas, des députés sénégalais ont déposé une proposition en ce sens. Le journal des sports dans 10 minutes. Fin du rêve olympique pour les basketteurs ivoiriens. Les Camerounais, eux, peuvent encore y croire. Et puis, on connaît aussi les groupes des qualifications à la prochaine CAN de foot. Alors qu'un sommet de la CDAO se tient dimanche à Abuja, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation sont d'ailleurs déjà dans la capitale fédérale nigériane pour commencer les discussions dès aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retrouvent, eux, à Niamey, premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce sera demain, samedi. Les trois pays ont fait part de leur volonté de quitter la CDAO pour créer cette nouvelle organisation. Les chefs des juntes burkinabées et maliennes sont attendus dès aujourd'hui dans la capitale nigérienne, Polycarpe Samba.
À Niamey, le mot d'ordre est passé. Pour ce premier sommet de l'AES annoncé comme un événement historique, les populations ont été invitées à sortir massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région. Niamey entend en effet marquer le coup et donner une impulsion à cette jeune organisation dont les chefs respectifs sont arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023 par des coups d'État. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, ex-puissance colonisatrice, et à la CDAO, qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leur bataille contre les djihadistes. Malgré cette prise de distance, plusieurs chefs d'État de la région continuent d'appeler au dialogue entre les deux blocs. C'est notamment le cas de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, qui, à peine installé au pouvoir à Dakar, avait fin mai jugé possible une réconciliation entre la CDAO et l'AES.
Polycarpe Samba du service Afrique de Radio France Internationale. Et alors que le président de transition du Mali est attendu aujourd'hui à Niamey, l'armée malienne est accusée de nouvelles exactions. Une soixantaine de corps retrouvés près d'Abeï Bara, c'est dans la région de Kidal, près de la frontière avec l'Algérie. Selon les sources locales jointes par RFI, il s'agit presque exclusivement de civils. Ils ont été tués par l'armée malienne et ses supplétifs ex-Wagner, désormais incorporé à l'African Corps, repris en main par les autorités russes. Au Burkina Faso, on est toujours sans nouvelles de trois journalistes. Khalifara Séré, chroniqueur sur la chaîne BF1, qui a disparu le 19 juin dernier, au lendemain d'une audition à la police judiciaire. Adama Bayala, également chroniqueur de BF1, qui n'a plus donné signe de vie, lui, depuis le 28 juin. Et Serge Houlon, directeur de publication de L'Événement, enlevé le 24 juin par des hommes qui se revendiquaient de l'ANR, l'Agence nationale burkinabé des renseignements. L'organisation Reporters sans frontières fait aujourd'hui part de son inquiétude et interpelle les autorités de transition burkinabé. Écoutez Sadibou Maron, directeur Afrique de RSF.
Leur famille n'a aucune nouvelle, leurs proches, leurs confrères aussi. Et c'est très extrêmement inquiétant dans le contexte actuel au Burkina que trois journalistes disparaissent en 10 jours sans provoquer une seule réaction des autorités au Burkina est extrêmement révoltant face à ce silence, à ces tonitruants et aux stratégies d'enlèvement qu'on a déjà vu dans ce pays pour faire taire des voix critiques. Nous avons toutes les raisons de penser que ces journalistes, ces chroniqueurs ont été la cible d'enlèvement par des membres des services de renseignement. Il revient donc aux autorités en place de sortir de leur mutisme et de mettre tout en œuvre pour faire toute la lumière sur le sort de ces trois journalistes. Ces pratiques d'enlèvement de journalistes qu'on a vues récemment, après l'enlèvement d'activistes et de défenseurs des droits humains, instaurent un climat de peur et d'autocensure qui mettent en péril la liberté de la presse dans un pays comme Burkina Faso, qui l'avait érigé comme pilier pendant très longtemps.
Un propos recueilli par David Baché. Une figure de la presse mauritanienne vient de disparaître. Mohamed Fall Ould Oumer est décédé hier. Le journaliste avait dirigé pendant près de 20 ans l'hebdomadaire La Tribune, réputé pour ses éditoriaux. En 2019, il avait été nommé directeur de l'agence de presse officielle, l'AMI, poste qu'il avait quitté en fin d'année dernière pour partir à la retraite. Mohamed Fall Ould Oumer avait ces dernières semaines intégré l'Observatoire national des élections pour suivre la présidentielle du 29 juin en Mauritanie. Une présidentielle où l'on connaît le vainqueur officiel, Mohamed Ould Razouani. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs hier. Le deuxième mandat du président Razouani débutera le 2 août. C'est au large des côtes de la Mauritanie que l'embarcation a chaviré. 89 migrants au moins sont décédés. C'était lundi, mais on l'a appris hier. Les gardes-côtes mauritaniens ont retrouvé le bateau et les corps sans vie à 4 km au large de la ville de Ndiago. Les exilés étaient partis du Sénégal. Le Sénégal est peut-être la fin du bras de fer entre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale, après le refus du Premier ministre sénégalais de venir faire sa déclaration de politique générale à cause d'un vice réglementaire. Plusieurs députés ont déposé un projet de loi pour rétablir les prérogatives du Premier ministre dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Première étape pour combler donc ce vide juridique sur lequel le Premier ministre s'appuie pour ne pas venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. À Dakar, les explications de Léa Lisa Westerhoff.
Une députée du Parti démocratique sénégalais hier et un autre parlementaire du groupe Wallou lundi, deux élus au moins ont déposé un projet de loi qui vise à rétablir les prérogatives du Premier ministre au sein du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un manquement dans le règlement a été constaté, justifie Nafissatou Diallo du PDS. En tant que législateur, c'est donc normal de le corriger, poursuit celle qui a déposé son projet de loi mercredi. L'objectif, bien sûr, c'est de sortir du blocage, faire en sorte que le Premier ministre puisse faire sa déclaration de politique générale comme l'exige la Constitution. Mais d'ici là, plusieurs étapes restent à franchir, et d'abord celle du bureau de l'Assemblée nationale. Il doit valider le principe de l'examen de ce projet de loi, mais pour cela il faut que le bureau du Parlement se réunisse. Or l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires, c'est donc au président du Parlement de convoquer le bureau, une session extraordinaire. Ça ne devrait pas poser de problème, affirme l'un de ses conseillers, mais aucune date n'a encore été annoncée. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal où les Françaises et Français qui y vivent vont voter dimanche, second tour des législatives, 9e circonscription des Françaises et Français de l'étranger qui couvre le Maghreb, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, 155 000 électeurs et électrices appelés aux urnes. Ils vont devoir départager Karim Ben Cher, qui est le député sortant de gauche du Nouveau Front Populaire. Il a recueilli 51,6% des suffrages au premier tour dimanche dernier, mais la participation était trop faible pour qu'il soit élu. Face à lui, Samira Djouadi de la coalition présidentielle Ensemble, qui a totalisé 15,7% des voix dimanche dernier. RFI vous propose d'écouter les professions de foi des deux candidats. On commence par celle de Karim Ben Cher.
Quand on parle des Français de l'étranger, généralement on parle de questions budgétaires et de démantèlement du service public. Les Français de l'étranger, moi je le dis toujours, sont à l'avant-garde quelque part du démantèlement du service public. Sur les 30 dernières années, les budgets associés ont été divisés par deux, les ressources humaines associées ont été divisées par deux. En tout et pour tout, si vous faites l'addition de tout ce qui est minima sociaux versés aux Français de l'étranger, on est sur 15 millions d'euros pour 2,5 millions de Français établis à l'étranger. Vous savez, la couverture sociale pour les Français de l'étranger, elle peut se faire à travers la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse de sécurité sociale. Sauf qu'aujourd'hui, cette caisse de sécurité sociale, on lui donne une mission de service public, c'est-à-dire prendre l'ensemble des Français qui souhaitent être couverts. Par contre, elle n'est pas du tout aidée par l'État. Ça lui coûte à peu près 25 millions d'euros par an et reçoit en contrepartie par l'État 380 000 euros. Donc là, il y a un déséquilibre complet de cette caisse et ça serait bien que nous puissions penser à de nouveaux modes de financement qui permettent à minima de compenser sa mission de service public.
Et en ballotage avec Karim Ben Cher de la gauche, Samira Djouadi de la majorité présidentielle Ensemble dans la 9e circonscription donc des Françaises et Français de l'étranger. On écoute son programme.
Quand on vient dans un pays étranger, on a envie que la scolarité de nos enfants soit digne de celle qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Il faut savoir, hein, et souvent dans l'Hexagone, on n'en a pas conscience, les études à l'étranger, même dans les écoles françaises, elles sont payantes et elles coûtent parfois très, très, très cher. Je n'irai pas dans de la démagogie en disant que je cherche la gratuité. La gratuité est quasiment impossible. Mais par contre, qu'on puisse obtenir beaucoup plus de bourses qui vont permettre aussi d'atténuer les frais de scolarité pour les familles françaises. Il y a un travail à établir avec la personne qui sera à la tête du ministère de l'Éducation nationale pour flécher des budgets vers cet enseignement dans les écoles françaises. On accepte d'envoyer des professeurs, mais on ne va pas jusqu'à réfléchir à un budget pour que cette égalité existe entre les écoles françaises à l'étranger et les écoles dans l'Hexagone. Donc là, il y a un vrai sujet, une vraie préoccupation et inquiétude.
Voilà, propos des deux candidats dans cette 9e circonscription des Françaises et Français de l'étranger pour ces législatives, recueillie par Guillaume Fabry. Des experts de l'ONU alertent sur l'augmentation alarmante de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les experts mandatés par le Conseil des droits humains de l'ONU qui s'inquiètent également de la fermeture des bases de la MONUSCO dans le pays. Au Soudan, où l'on va terminer ce journal, les forces de soutien rapide du général Hemeti continuent leur progression au sud de Khartoum, dans l'état du Sennar. Nous sommes là le long du Nil bleu qui descend des hauts plateaux éthiopiens. Les paramilitaires FSR ont affiché hier leur victoire à Sinja, l'un des deux chefs-lieux de l'état de Sennar. Face aux exactions, les civils fuient en masse. L'ONU parle de près de 140 000 personnes. Plusieurs dizaines ont péri en traversant le Nil bleu. Jusqu'ici, l'état de Sennar était relativement épargné par la guerre qui oppose depuis avril 2023 l'armée régulière aux paramilitaires. Ouda Ibrahim, il s'agit d'un carrefour stratégique.
L'état de Sennar jouit d'une position géographique excellente. Il est situé sur un carrefour de lignes liant plusieurs autres états au Port-Soudan, situé à 200 km de Sinja, devenue capitale administrative provisoire au Soudan. En cherchant à dominer cet état, les FSR pourraient couper les chemins d'aide et de fournitures militaires destinés à l'armée. Plusieurs observateurs considèrent par ailleurs que si les FSR prennent le pont stratégique de Douba, où des combats ont lieu actuellement, cela leur permettrait d'encercler la ville de Gadarif, située dans un état relativement calme. Elles auront également, selon un expert militaire parlant à l'AFP sous couvert d'anonymat, une ligne ouverte vers la frontière éthiopienne, ce qui pourrait leur donner de nouvelles voies d'approvisionnement. Enfin, l'état de Sennar est également à la frontière avec le Soudan du Sud, pays qui aurait fourni, selon Khartoum, le plus grand nombre de mercenaires au FSR. Ces forces annoncent avoir pris le contrôle de la zone stratégique de Miram, au Kordofan de l'Ouest, à 60 km de la frontière avec le Soudan du Sud.
Ouda Ibrahim, et c'est ainsi que se termine cette édition. C'est à vous, Marion Kazanov, pour la fin des RFI Matin.
Merci, Vincent Dublange.